avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent d'ouest. Écoutez-le tenir le plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent de l'est. Écoutez-le vouloir le plat pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord. Écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud. Écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
Son répertoire hisse d'emblée le pavois déchiqueté d'une danse macabre. Le visage se creuse autour des orbites de tous les acides de la solitude, comme si Dürer était passé par là, à la fin d'une kermesse en trompe-l'œil. Avec la maladresse d'un héron mazouté, il invective sur les podiums des fêtes carillonnait son immense douleur d'être là, comme en s'excusant de faire des piges supplémentaires sur le grand livre d'heures de la destinée. Dernier des Mohicans, ultime anarchiste à la lanterne, plus grand chanteur de son temps, peu lui chaud. L'important, c'est la parole donnée, c'est le style à l'encan. Et sur ce versant, Jacques Brel est un seigneur. Tu n'es pas le bon Dieu, toi, tu es beaucoup mieux. Tu es un homme.
Toi, si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles. Toi, les gueux, de ciel bleu, mais tu n'es pas le bon Dieu, toi tu es beaucoup mieux. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme.
Quand la trajectoire artistique du grand Jacques tambourine à la porte de l'inconscient collectif, c'est tout le puzzle d'une légende qui afflue à la mémoire. Il vomissait de trac à chaque fois qu'il entrait en scène. Puis il s'écroulait dans sa loge, aussitôt le rideau rouge tombé. Nier la notion d'artiste, tolérer à peine celle d'artisan, piloter un Boeing à ses heures creuses, aimer le vin de Moselle et les jolies dames pas trop longtemps. On se souvient qu'à ses débuts, le chanteur termina avant-dernier d'un crochet radiophonique au casino de Knokke-le-Zoute, talonné par un certain René-Louis Laforgue. Enfant, il pianotait sans cesse sur le clavier familial, avec un faible pour la lettre à Élise, sur un rythme de passo-doble. Autant de flashs obliques pour une vie menée tambour battant, bannière d'écume aux lèvres, le cœur à l'acmé des extra-systoles. Jacques Romain Georges Brel, né le 8 avril 1929 à Schaerbeek, avenue du Diamant, dans la banlieue populaire de Bruxelles, sur le territoire d'Outre-Crièvrin, comme disent les commentateurs cyclistes. Deuxième enfant d'un échantillon de la bourgeoisie locale, détenant des parts dans une usine d'emballage, le gamin passe son enfance dans un milieu austère, réactionnaire, aux méthodes d'éducation rigides. Des remugles de boy-scoutisme flottent sur ses cahiers revisités. Mon enfance passa de grisaille en silence, de fausse révérence en manque de bataille.
Mon enfance passa grisaille en silence, de fausse révérence en manque de bataille. L'hiver, j'étais au ventre de la grande maison qui avait jeté l'encre parmi les joncs. L'été à moitié nu, mais tout à fait moderne, je devenais indien. Pourtant, déjà certain que mes ongles repu m'avait volé le Far West. Mon enfance passa les femmes aux cuisines où je rêvais de Chine vieillissait en repas, les hommes au fromage s'enveloppaient de tabac flamant des œufs et sable.
et ne me savais pas. Moi qui, toutes les nuits, agenouillé pour rien, arpégeais mon chagrin au pied du trop grand lit. Je voulais prendre un train que je n'ai jamais pris. Mon enfance passa de servante en servante. Je m'étonnais déjà qu'elle ne fût point plante. Je m'étonnais encore de ses rondes familles flânant de mort en mort, et que le deuil habille. Je m'étonnais surtout d'être de ce troupeau qui m'apprenait à pleurer, que je connaissais trop. J'avais l'œil du berger, mais le cœur de l'agneau. Mon enfance éclata, ce fut l'adolescence et le mur du silence. Un matin se brisa, ce fut la première fleur et la première fille, la première gentille et la première peur. Je jure que je volais, mon cœur ouvrait les bras. Je n'étais plus barbare. Et la guerre arriva. Nous voilà ce soir.
Sa famille catholique flamande le destine à l'entreprise ancestrale de cartonnerie, mais hormis les jeux de cartes, taper le carton n'est pas dans ses gènes. Il réfléchit très sérieusement à une reconversion, soit éleveur de poules, soit cordonnier, soit ultime pis-aller dans la chanson. Il choisit, les dieux du music-hall l'en remercient, cette dernière porte, étroite à ses débuts, plus étroite que celle d'André Gide. Parti tenter sa chance selon un schéma traditionnel dans les mailles de la grande ville, il se fait couper les vivres par sa famille, rebuté par sa personnalité trop provocatrice, n'acceptant pas cette trajectoire de saltimbanque crépusculaire. Il chante alors sous le pseudo de Bérel, anagramme de rebelle, pas si éloigné du nom de ses ancêtres. Seule la force de son verbe le tient à chaque soir debout. En 1953 sort sa première rondelle qui est bien loin de faire le printemps. Après quelques scènes bruxelloises, l'incontournable orpailleur Jacques Canetti, propriétaire du cabaret Les Trois Baudets, le remarque et le fait venir à Paris. Les débuts dans la capitale sont épineux. Le public, dans un premier temps, le boude. Il lui reproche son allure médiévale, sa façon de s'habiller, sa gaucherie incommodante, ses longs bras dont il ne semble pas savoir quoi faire. Au lieu de distraire son auditoire, il le met mal à l'aise. « J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. »
Au suivant, au suivant. tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, au suivant. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Mais au suivant, au suivant. Ce ne fut pas Waterloo, non, non, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tatouage de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, et au suivant. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps. Au suivant. Au suivant, et depuis chaque femme à l'heure de succomber entre mes bras trop maigres semble me murmurer au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Au suivant, au suivant. Un jour, je me ferai cul-de-chatte ou bonne sœur ou pendu. Enfin, ces machins où je ne serai jamais plus le suivant, le suivant.
Mais il tient bon, s'accroche et finit par passer en vedette américaine à l'Olympia, une silhouette disgracieuse, un mal-être difficile à surmonter. Il y fait la connaissance de Georges Brassens, Jean Ferrat et Guy Béard. Juliette Gréco adapte sa chanson Le Diable, mais la critique le tourne toujours en dérision avec sa garde-robe désuète, ses gestes mal assurés et ses mimiques de fin du monde. Comme il chante souvent pour les organisations chrétiennes, Georges Brassens le surnomme gentiment l'abbé Brel, au vu de la couleur anthracite de ses défroques. Quand Brel abandonne la guitare qui lui mange la moitié de sa silhouette, l'étendue de son talent scénique saute au visage des premiers rangs. Après son premier succès, Quand on n'a que l'amour, en 1956, il enchaîne les scènes de l'Olympia puis de Bobino. Enchaîné est le mot, car il s'y montre aussi à l'aise qu'un forçat avec son boulet aux chevilles dans les parages du bagne de Biribi.
Knokle-zout, je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante Mikolasone avec la voix bandonnéante d'un argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, je fais ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je rechanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Une heure seulement. Être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes.
si lassé d'être chanteur, qu'il soit devenu maître chanteur et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vends des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais PD, de fausses vierges, que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Un jour au paradis, je devienne comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à aile blanche. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes. Je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Étant une heure seulement, étant une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois.
Il croise les talents de François Robert et Gérard Joannest qui apporteront beaucoup de moelleux dans l'enveloppe sonore de ses textes et resteront ses musiciens attitrés jusqu'à la fin du parcours. Les conditions de travail demeurent difficiles. Boulevard des Capucines, il n'y a pas de loge et doit se changer derrière le bar de l'Olympia. À la fin d'une représentation, Bruno Cocatrix, le boss des lieux qui l'a remarqué, vient le féliciter pour sa prestation, l'invitant à lui rendre visite pour discuter d'un prochain passage en vedette à part entière et entièrement à part cette fois. Il en profite pour présenter trois nouvelles chansons, trois coups de canon qui font exploser les formats, l'écriture et la mise en musique de la chanson traditionnelle. La tendresse bouleversante des vieux, le sens prodigieux de l'observation de la sensation immédiate du plat pays et la peinture sociale féroce et décapante d'Amsterdam. Dès lors, les succès se succèdent à un train soutenu. Les Flamands en 58, la valse à mille temps en 59, les Bourgeois en 62, Mathilde, Jeff, ces gens-là en 65.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis elle est toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Oui, ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Les mots vifs sont tronçonnés à timbre nu. Le visage se crispe en bas-relief baroque. Les traits se révulsent comme ceux d'un personnage exhumé du cinéma de Dreyer. Des éclats de phrases en guise de cris bouillonnent au fond du gosier quand le vif est si mal aux jointures. Poings serrés devant le micro, diaphragme vibrant jusqu'au collapsus, les mandibules écument comme les naseaux d'un cheval au galop sur la plage. Sur l'estrade, véritable pantin désarticulé, allant jusqu'au bout de lui-même, Brel est un morceau d'émotion brute, plongé au courbouillon. Il vit ses personnages de l'intérieur de ses viscères et fait monter la tension théâtrale jusqu'à l'extase finale. L'épectase, peut-être, ce qui fait de lui une vraie bête de scène, plus qu'un touriste de studio.
J'étais bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je traînais, madame, votre landau, jolie madame, dans les rues de Bordeaux. Mais tu as voulu que je sois ton amant, tu as même voulu que je quitte ma jument. Je n'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu en as profité, par amour pour toi, je me suis déjumenté. Depuis, toutes les nuits, dans ton de satin blanc, je regrette mon écurie et ma jument. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que tu te foutais, madame, la gueule par terre, jolie madame, quand tu forçais le cerf. Mais tu as voulu que j'apprenne les bonnes manières, tu as voulu que je marche sur les pattes derrière. J'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu m'as couillonné, hein. Par amour pour toi, je me suis derriérisé. Depuis, toutes les nuits, quand nous dansons le tango, je regrette mon écurie et mon galop. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux,
bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je te promenais, madame, sur mon dos. Jolie madame, en forêt de Fontainebleau, mais tu as voulu que je sois ton banquier. Tu as même voulu que je me mette à chanter. Je n'étais qu'un cheval, oui, oui, mais tu en as abusé. Par amour pour toi, je me suis variété. Depuis toutes les nuits, quand je chante, ne me quitte pas. Je regrette mon écurie et mes silences d'autrefois. Et puis, tu es parti. Radical, avec un zèbre mal rayé. Le jour, madame, où je t'ai refusé d'apprendre à monter à cheval. Et tu m'avais pris ma jument, mon silence, mes sabots, mon écurie, mon galop. Tu ne m'as laissé que mes dents. Et voilà pourquoi je cours, je cours, je cours le monde en me voyant refuser l'amour par les femmes et par les juments. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux avant, quand j'étais cheval, que je promenais, madame, votre landau, quand j'étais cheval et quand tu étais chameau.
Écrire des chansons selon son code de conduite, c'est avoir des pressentiments, faire des bouillons de son trépas. Chaque soir, il s'arrache les tripes devant une clientèle incrédule qui chavire. Ne lui parlez surtout pas de muses câlines et d'enjeux poétiques. Plus de transpiration que d'inspiration dans son travail de création. Il le dit, il le crie, il persiste en écumant. Ses chansons sont reprises dans le monde entier, notamment en flamand, en anglais, Amsterdam par David Bowie par exemple, en allemand, Ne me quitte pas par Marlène Dietrich, et en espagnol par Yuri Buenaventura. Le tour du monde de chant 1964 est une révolution culturelle ambulante, un coup de pied au cul des conventions du spectacle. Le lyrisme dans la chanson, c'est comme si Jérôme Bosch dessinait pour un quotidien. Suzanne Gabrielo, animatrice potelée de l'époque, s'est vantée d'être la destinataire de Ne me quitte pas, une des plus belles chansons d'amour jamais écrites en langue française.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est
paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Sur la relation volcanique de Brel avec les femmes, il y aurait des sagas islandaises à écrire. Affection, tendresse, sexualité, complicité. Il ne savait pas trancher. Certains l'ont vite étiqueté misanthrope, plus particulièrement misogyne. En fait, il refusait toujours son statut d'adulte et d'amant par-dessus le marché, craignant par-dessus tout l'ennui du quotidien et de son cortège de petits gestes fonctionnaires. Seules les prostituées semblaient trouver grâce à ses yeux. Les ébats, pas les débats. Je les voudrais douces et soyeuses, bonnes travailleuses, sans parlotte. Madeleine, Mathilde, Germaine avec ses bonbons, la fanette, Marie-Queue aux cheveux d'or. Ils s'enivraient de tout en même temps, sans s'attacher jamais à aucun projet fusionnel.
Elles sont notre première ennemie quand elles s'échappent en riant des pâturages de l'ennui. Les biches avec des cils comme des cheveux on accroche au fond et seulement le bout des yeux qui trichent. Si bien que le chasseur s'arrête et que je sais des ouragans qu'elles ont changé en poètes. Les biches, et qu'on les chasse de notre esprit ou qu'elles nous chassent en rougissant, elles sont notre première ennemie. Les biches de 15 ans, elles sont notre plus belle ennemie quand elles ont l'éclat de la fleur et déjà la saveur du fruit. Les biches qui passent toute vertu dehors alors que c'est de tout leur cœur, alors que c'est de tout leur corps qu'elles trichent. Le mari, ou lorsqu'elle croque le diamant sur l'asphalte bleu de Paris. Les biches qu'on les chasse à coups de rubis ou qu'elles nous chassent aux sentiments, elles sont notre plus belle ennemie. Les biches de 20 ans, elles sont notre pire ennemi lorsqu'elles savent leur pouvoir, mais qu'elles savent leur sourcil. Les biches, quand un chasseur est une chance, quand leur beauté se lève tard, quand c'est avec toute leur science qu'elles trichent, trompant l'ennui plus que
le cerf et l'amant avec l'autre amant et l'autre amant avec le cerf qui biche. Mais qu'on les chasse à la folie ou qu'elles nous chassent du bout des gants, elles sont notre pire ennemi, les biches d'après 20 ans. Elles sont notre dernière ennemie quand leur sein tombe de sommeil pour avoir veillé trop de nuit, les biches. Quand elles ont le pas résigné des pèlerins qui s'en reviennent, quand c'est avec tout leur passé qu'elles trichent, afin de mieux nous retenir, nous qui ne servons à ce temps qu'à les empêcher de vieillir, les biches. Mais qu'on les chasse de notre vie ou qu'elles nous chassent parce qu'il est temps, elles restent notre dernière ennemie, les biches, de trop longtemps.
La confession impudique demeure un mauvais genre qu'il faut bannir de tout récital. Inutile de chercher dans les chansons de Brel des moments d'abandon. Restent ses pâleurs et ses rages en majesté, ses prostrations et ses fièvres. Une âme d'imprécateur carnassier solitaire, phonotriste, toujours prêt à désespérer avec le premier clochard céleste venu jusqu'au bout de la nuit. À travers les années, sa haine des flamingants restera intacte. Nazis durant les guerres et catholiques entre elles. Certes, il n'a pas l'habitude de porter les messages. Il y a des facteurs pour ça, ironise-t-il, mais il n'a pas non plus loisir de mégoter sur la confusion des sentiments.
Les Flamingants, chanson comique. Les flamingants, j'ai deux mots à vous rire. Il y a trop longtemps que vous me faites frire, à vous souffler dans le cul pour devenir autobus. Vous voilà acrobate, mais vraiment rien de plus. Nazis durant les guerres et catholiques entre elles, vous oscillez sans cesse du fusil au missel. Vos regards sont lointains, votre humour est exsangue, bien qu'il y ait des rues à Gand qui pissent dans les deux langues. Tu vois, quand je pense à vous, j'aime que rien ne se perde. Messieurs les flamingants, je vous emmerde. Salissez la Flandre, mais la Flandre vous juge. Voyez la mer du Nord, elle s'est enfuie de Bruges. Cessez de me gonfler, mes vieilles roubignoles, avec votre art flamand, italo-espagnol. Vous êtes tellement, tellement beaucoup trop lourd que quand les soirs d'orage, des Chinois cultivés me demandent d'où je suis, je réponds fatigué et les larmes aux dents. Ich bin von Luxembourg. Et si aux jeunes femmes, on ose un chant flamand, elles s'envolent en rêvant aux oiseaux roses et blancs. «
Et je vous interdis d'espérer que jamais à Londres sous la pluie on puisse vous croire anglais. Et je vous interdis à New York ou Milan d'éructer mes seigneurs autrement qu'en flamand. Vous n'aurez pas l'air con, vraiment pas con du tout. Et moi je m'interdis de dire que je m'en fous. Et je vous interdis d'obliger nos enfants qui ne vous ont rien fait à aboyer flamand. Et si mes frères se taisent, eh bien tant pis pour elles. Je chante, persiste et signe, je m'appelle Jacques Brel.
La machine s'emballe. Les tournées s'enchaînent à un rythme infernal. Ces longues nuits blanches d'errance et de déréliction entre alcool et tabac à outrance forgeront le personnage d'un libertin farouche dans toute sa démesure. Il lui arrive d'assurer jusqu'à 300 concerts par an. Il ne choisit pas. Il va partout où on le demande. Chantant sans répit, tétanisé derrière son pied de micro, cloué à la grande ours jusqu'à ce qu'on le camisole en sortant de scène. Il passe ses nuits dans les estaminets et les bordels. Il ne touche pas les filles, il boit et il regarde. Une conviction d'acier dans le dur désir de durer. Cher à Éluard, un cœur gros comme le Taj Mahal. Quand on n'a que l'amour pour meubler les merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains le monde entier.
Dix ans à peine après ses débuts, il pense déjà à prendre ses distances avec la scène. Le métier d'artiste, à la crier, l'a toujours bassiné. Est-ce normal de s'exhiber chaque soir devant des centaines de gens que l'on ne connaît pas ? Il ne s'intéresse guère aux arcanes du métier, fréquente peu les autres faiseurs de ritournelles, ses maigres collègues. Chaliapin ou Caruso étaient des chanteurs. Pour nous, nous chantonnons. Pour l'anecdote, il reçoit la Grande Frite, prix de la RTBF récompensant le plus grand belge de tous les temps.
C'est Sœur Sourire qui remporte l'équivalent féminin.
La grosse moule. Le chanteur en pouffe encore. Ses compatriotes sont impayables. Le soir où, machinalement, dans un état proche de la cachexie, il chante deux fois le même couplet, il préfère arrêter les frais. En octobre 66, il fait ses adieux sur la scène de l'Olympia. Les professionnels tentent de l'en dissuader. Le public regimbe, crie à l'abandon de poste. Il a tant de choses à dire encore. Personne n'a voulu que je débute, personne ne veut que je m'arrête. Le chanteur se tourne vers le cinéma pour faire diversion et figure en haut de l'affiche dans Les risques du métier. L'aventure, c'est l'aventure. Ou Mon oncle Benjamin. Il s'essaie également à la réalisation. Franz, Far West, avec moins de succès. Son dernier rôle dans L'Emmerdeur d'Edouard Molinaro restera son plus célèbre emploi sur le grand écran. Il y campe le dépressif François Pignon, personnage récurrent des scénarios de Francis Weber, qui veut à tout prix se suicider face au tueur à gages Monsieur Milan, alias Lino Ventura. Une dernière composition mythique. En 1968, à Bruxelles, il avait créé la version francophone de L'Homme de la Mancha, interprétant le rôle-titre de Don Quichotte aux côtés de Dario Moreno dans le rôle de Sancho Panza. Lutter contre les moulins de l'injustice, voilà un rôle qui lui allait comme un gantelet couvert de lames de fer. Et Dieu ou Satan seul savait combien le panache comptait pour le grand Jacques.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
En 1974, le perpétuel cow-boy ébouillanté plaque tout et part pour un tour du monde à bord de son voilier. Pas de bile aigre dans les conduits, juste une envie d'ailleurs. Sur la balancelle de la désespérance, il se tait, il se cache, menant seul son combat contre l'oubli et contre la maladie qui cogne à la plèvre. Mais sous nos climats continentaux, les rumeurs vont bon train. Robinson aux antipodes est devenu sujet d'actualité people, traqué, épié, harcelé, il rebondit d'île en île, telle une balle de jokari pour enfin se fixer à Ivaoa, dans l'archipel des Marquises. Des gens qui bougent, les immobiles disent qu'ils fuient. Là-bas, il vit au rythme des saisons, dans une modeste maison au toit de tôle ondulée, sans électricité. L'horizon barré par une barrière de corail, mais une ombre noire le hante. Un cancer du poumon diagnostiqué quelques semaines auparavant. Serait-il impossible de vivre debout ? Des fourmis rouges colonisent sa couenne. Jacques l'écartelé n'est décidément bien nulle part. Jusqu'au bout, il attendra une levée d'écrou de ses années d'enfance. Cercueil de plomb en vie âgée. Brel reviendra à Paris en 1977, enregistrer avec un seul poumon son dernier album avec des titres pompeux. Jaurès, Vieillir, La ville s'endormait. Il atteint là sa plus grande violence vocale, tonitrue contre toute cette humanité qui se montre si peu à la hauteur de son immense amour. L'homme pour lui restera donc toujours une denrée périssable, une aimable facétie avant de rejoindre le silence hurleur. Les disques sont cadenassés dans des containers numérotés. Une impressionnante entreprise de marketing promotionnelle menée par Barclay se met en place. Le coup médiatique du siècle. Jamais un disque ne sera plus entendu par son public. Ce testament sonore connaîtra un succès considérable. Les dernières volontés de Brel sont son ultime caprice avant de se faire la belle. Une formidable densité scénique assiège la mémoire du plus grand nombre. Les chansons de Brel planent éternelles. La place de Brouckère compte ses omnibus, les marins se mouchent encore dans les étoiles, la tignasse du cousin n'a toujours pas vu un peigne et les amants débutants font des brouillons de baisers sur les statues du square. Il n'y aurait que des amputés du cœur pour ne pas frissonner devant ces textes parsemés de copains de bordée dépassant le quintal, de courses paniques du Vierzon à Vesoul, de kermesse à tout bastringue, devant du nord qui fait craquer les digues. Beaucoup de pépites inexplorées gisent encore dans les remparts de Varsovie et les lavoirs des mélancolies. Jacques Brel décède le 9 octobre 1978 dans la chambre 305 de l'hôpital de Bobigny. Mort dû au paparazzi autant qu'au cancer, n'a-t-il pas séjourné de longues heures dans un local glacé pour échapper aux objectifs indélicats ? Une pneumonie l'emporte, il totalise 49 printemps, ce qui n'est pas un âge pour tourner le coin de la rue. Mourir de faire le pitre pour dérider le désert, mourir face au cancer par l'arrêt de l'arbitre. Aux dernières nouvelles, Jacques Brel va bien, il repose paisiblement là-bas aux côtés de Paul Gauguin, la tête tournée vers son inaccessible Far West, le pays de cocagne de son enfance.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Les commentaires que vous avez pu entendre tout au long de cette émission se sont largement inspirés de l'ouvrage de Patrice Delbourg, Les funambules de la ritournelle, aux éditions Écriture.